7h24. Notre invité ce matin en studio, et je fais une parenthèse tout de suite, la distanciation est respectée. Et nous sommes les deux seuls en studio, il n'y a personne d'autre, on respecte. Parce qu'il faut le dire à la radio, on ne le voit pas, mais on vous le mentionne. Le premier ministre du Québec, François Legault, est avec nous. Monsieur Legault, bonjour.
Bonjour, M. Arcan.
C'est le temps de faire le bilan. La session se termine. Ça a été un printemps, évidemment, mouvementé. Et on va commencer par le dossier, bien sûr, de la COVID, de la gestion. Il en demeure pas moins qu'il y a 5 000 Québécois et plus qui ont perdu la vie dans cette crise, principalement des personnes âgées, principalement dans des CHSLD. Comment expliquer ce qui s'est passé dans les centres de soins de longue durée? C'est une catastrophe. On comprend qu'il manquait de personnel, on comprend qu'il y a eu une contamination. Avez-vous des éléments à donner aux Québécois comme réponse?
Oui. Bien, écoutez, effectivement, puis je l'ai dit souvent pendant les 3 mois, il y avait comme 2 mondes au Québec, 2 batailles, une qu'on a perdue, puis une qu'on a gagnée. Celle qu'on a perdue, c'est dans les CHSLD. Sur à peu près 200 000 résidents, il y en a 4 700 qui sont décédés. Bon, pour revenir sur le pourquoi, mais ça s'est passé surtout au cours des premières semaines. Mais ce qui est important tout de suite de dire, c'est que dans le reste de la société, là, on est 8,5 millions d'habitants au Québec, donc sur 8,3 millions de personnes, il y a eu 500 décès. Ça, là, c'est une victoire des Québécois qui ont respecté les consignes, là, comme c'est pas possible, plus qu'ailleurs. Mais il y a une défaite, une grosse défaite, puis une grosse victoire.
Dans le cas des CHSLD, est-ce qu'il y avait un plan? C'est-à-dire que je sais qu'on a transféré des gens, on a libéré des lits au début de la crise. Moi, on me dit qu'il y avait des plans qui existaient, que quand une pandémie arrive, il faut prévoir que 30 % du personnel peut être contaminé. Avez-vous laissé les centres de soins de longue durée à découvert avec les patients les plus vulnérables du Québec?
Bon, d'abord, il faut comprendre que même les patients des CHSLD, quand ils devenaient malades, atteints de la COVID, puis que c'était grave, on les transférait à l'hôpital. Donc, l'hôpital, c'était incontournable. Il fallait être prêt à recevoir des patients avec la COVID qui viennent des CHSLD ou ailleurs. Le problème qu'on a vécu dans les CHSLD, c'est qu'il nous manquait, avant que ça commence, 10 000 employés. Et en plus, dans les employés qui étaient là, il y avait beaucoup de temps partiel, beaucoup de gens qui travaillaient dans 2, 3, 4 CHSLD. Donc, ça a amené le virus. Bien honnêtement, au début, personne ne savait que les employés qui n'avaient pas de symptômes pouvaient transmettre le virus. Donc, effectivement, des visiteurs, mais aussi des employés, ont transmis le virus aux résidents. On a des CHSLD qui sont très petits, des fois 2, 3, 4 personnes par chambre. Donc, ça s'est propagé.
Mais ma question, est-ce qu'il y avait
rapidement
un plan d'urgence? C'est-à-dire de voir si ça tombe là, s'il y a une contamination, si on manque de personnel pour X raisons. Aviez-vous un plan d'urgence, de déploiement, ou si vous avez dû l'improviser quand vous avez vu ce qui se passait?
Bien, le plan, c'était dans les hôpitaux, je le répète.
Mais
encore.
Pas dans les CHSLD.
Non, mais les gens des CHSLD, il y en a beaucoup qui ont été transférés dans les hôpitaux. Même dans certains cas, ils ont laissé dans les hôpitaux, justement, parce qu'on était mieux équipés dans les hôpitaux que dans les CHSLD. Mais le plan, c'était de dire les respirateurs, là, les fameux respirateurs que tout le monde manquait dans le monde, mais que nous, on en avait beaucoup plus, là, on en avait plus de 1 000 pour la population qu'on a au Québec, là. Mais c'est une attaque au poumon, souvent, la COVID-19. Donc, on était équipés dans les hôpitaux. Mais il y a eu, le problème qu'on a vécu, c'est qu'il y a eu une propagation, il y a eu des milliers, plusieurs milliers de résidents. Il en reste encore 800, d'ailleurs, qui sont infectés dans les CHSLD. Mais je me rappelle au début, il y avait un gros débat. Est-ce qu'on reste, on laisse ou non les visiteurs entrer, entre autres les proches aidants? Malheureusement, il y a des proches aidants qui ont infecté les résidents. Et ensuite, les employés, parce qu'ils ne portaient pas de masque, entre autres au début, pas parce qu'il en manquait, mais parce qu'ils pensaient que s'il n'y avait pas de symptômes, il n'y avait pas de risque de contagion.
Que des gens meurent, c'est terrible, c'est une chose. Je regarde les rapports des soldats, je regarde ce que des gens... C'est dans bien des cas l'état dans lequel on a laissé les gens là, pas manger, pas soigner, pas laver. C'est probablement au niveau de la dignité, l'affaire la pire.
Oh, écoutez, là, c'est inqualifiable. Moi, je trouvais ça tellement dur. Puis je me suis creusé la tête pendant des nuits là, pour dire comment on fait pour avoir des employés, au moins pour nourrir, pour faire boire les résidents. Parce que
moi, à quel moment vous avez su qu'il y avait des gens qui n'étaient pas nourris, qui n'avaient pas accès à de l'eau, qu'on ne pouvait pas soigner ou même, je dirais, traiter adéquatement?
Ben après quelques semaines, écoutez, on savait qu'il nous manquait des employés. Écoutez, il y a même des CHSLD, quelques CHSLD, où tous les employés se sont sauvés. Parce que là, faut pas juste comprendre qu'il y avait des employés infectés. Il y avait des employés qui avaient peur d'être infectés, puis qui quittaient. Écoutez, on a eu jusqu'à 11 000 qui ont quitté. Puis là, on a essayé de les remplacer par des volontaires payés via « Je contribue ». Après, on a ajouté, c'est moi qui ai proposé ça, d'avoir toutes sortes de primes pour essayer de convaincre les gens de rester. Mais il nous manquait de personnel pour même nourrir les résidents.
Dans le cas de Aaron, est-ce que c'est vrai que vous l'avez appris le vendredi soir?
Oui.
L'ampleur de la situation, là, 27 morts et plus. Là.
Ben, en fait, je l'ai même appris le samedi matin. On m'a réveillé de bonne heure samedi matin. Je devais pas faire de point de presse cette journée-là. Puis quand j'ai su ce qui se passait, ben, je me suis amené à l'Assemblée nationale pour faire un point de presse.
Mais comment ça se fait que vous l'avez pas su? Comment ça se fait que le ministère l'a pas su? 27 personnes qui meurent, vous pouvez pas l'apprendre. Ils meurent pas toutes la même journée. Là. Il y a pas un problème dans la machine, dans la gestion de l'affaire?
Ben, il y a toute la question, c'est un CHSLD privé.
Mm-hmm.
Là où il faut peut-être travailler, c'est que les fameux CIS ou CIUS, ben, ils sont responsables des établissements publics. Mais pour ce qui est des établissements privés, ben, ils font une certaine supervision. Mais un établissement privé, ça reste un établissement privé. C'est pas géré par le public. Par contre, là, la leçon qu'on a eue, c'est qu'à l'avenir, il va falloir avoir des rapports bien plus réguliers que quelques inspections de temps en temps.
OK. Une autre question. Vous avez dit on n'a pas eu de pénurie d'équipement de protection. Il n'y a pas eu un manque. Il n'y a pas eu de pénurie parce qu'on a géré ça serré aussi. Moi, j'avais des gens de terrain qui disaient, on nous demandait d'étirer des masques, on nous demandait de prenez pas une blouse de protection ou essayez. On n'a pas eu de pénurie. C'est comme un rationnement, disons.
Bien, on était effectivement très serré. À un moment donné, on n'avait même pas pour une semaine. Donc, on était inquiet. Puis, on a travaillé sur une espèce de plan B, là, de voir est-ce qu'on peut fabriquer nous-mêmes, même si ça répond pas toujours aux normes fédérales. Mais, effectivement, on n'a pas manqué, puis on n'a pas jamais demandé aux gens de se mettre à risque. Par contre, au début, ni les visiteurs, ni certains employés portaient de masque quand il n'y avait pas de symptômes, okay. Alors qu'ils auraient dû en porter.
Quand vous faites un peu de recul maintenant,
ouais.
Vous avez décrété donc l'état d'urgence puis les mesures de confinement, les 12 et 13 mars en gros. Là. Est-ce que ça aurait été préférable d'y aller de façon rétroactive au 8 mars? Parce qu'il y a des gens qui revenaient des fameuses vacances du congé scolaire et qui, eux, se sont pas sentis visés par ça parce que c'était le 12 mars. Il y a des gens qui ont peut-être contaminé d'autres personnes. Auriez-vous pu l'imposer en disant si vous êtes arrivé le 8 plutôt que le 9 ou en fait le 10, je vous l'impose de la quarantaine?
Bien, je reviens sur 500 décès pour 8,5 millions d'habitants dans la communauté. Là, oublions pour l'instant les CHSLD, même si c'est très grave ce qui est arrivé là. Les gens ont suivi les consignes au Québec plus que dans n'importe quel des 60 États et provinces en Amérique du Nord. On était les premiers à fermer les entreprises. Il y en a qui n'ont jamais fermé le manufacturier, la construction. Nous, on a tout fermé. J'ai même eu des gros débats à l'interne parce qu'on me demandait quelques jours le temps d'établir la liste des services essentiels. Moi, j'ai refusé. J'ai dit non, regarde, on l'établira ensuite. Mais là, il faut tout fermer. Donc, non, pense pas.
Ça n'aura pas rien changé, selon vous.
Ça n'aura pas rien changé.
Dernière question sur les centres de soins de longue durée. Il y a beaucoup d'employés, puis même de propriétaires de ces résidences-là, privées, qui me disent, depuis que vous avez annoncé ce programme de recrutement qui commence aujourd'hui,
oui.
Là, ils perdent des employés. Il y a une compétition salariale qui est peut-être pas, c'est pas très égale. Et l'autre question qui revient, vous l'avez dit un peu, avez-vous l'intention de nationaliser tout ce qui s'appelle ressources et centres de soins de longue durée au Québec?
D'abord, je vais vous dire, moi, je suis très fier, là, c'est une de mes idées que j'ai eues pendant une nuit, là, de dire à mes ministres, là, faut essayer d'avoir 10 000 personnes dans une formation courte de 3 mois. En fait, ce matin, là, je vous annonce, il y a 9 800 personnes qui commencent. Puis on va en avoir un autre 2 000 qui vont avoir leur formation à l'automne entre autres les personnes qui travaillent actuellement dans les CHSLD. On ne voulait pas se retrouver dans une situation difficile durant l'été en déshabillant un pour habiller l'autre. Donc, eux vont suivre la formation cet automne. Bon. Pour ce qui est de la nationalisation, ben, et évidemment, là, moi, ce que je veux commencer par faire, c'est de dire, on l'a vu, là, puis on commence à avoir une bonne évaluation, les CHSLD privés qui ont été mal gérés, on va les récupérer, on va les nationaliser. Il y a des CHSLD privés qui ont été bien gérés, où il n'y a même pas eu de cas, ou en tout cas, si jamais on le fait, ça sera dans une deuxième étape. Mais ce qu'on se rend compte, c'est qu'un CHSLD, c'est pour des personnes qui ont besoin de beaucoup de soins. C'est presque un hôpital. Puis le choix qu'on a fait au Québec, c'est que nos hôpitaux, ils sont publics. Donc, moi, je pense que nos CHSLD, où il y a des patients qui ont besoin de beaucoup de soins, ça devrait être public.
En terminant, vous avez répété à plusieurs reprises sur le volet de CHSLD là, que vous étiez quelqu'un de pragmatique. Avez-vous pogné les nerfs pendant la crise parce que l'information ne montait pas à votre bureau ou que les directives que vous donniez n'étaient pas suivies? On me raconte des cas où, par exemple, dans un hôpital, on prenait une décision, le temps que ça remonte, ça prenait 2 semaines avant que ça redescende. Est-ce que vous vous êtes fâché, tanné contre la machine, le mammouth du ministère de la Santé?
Bon, deux choses. Oui, sur certains cas, je me suis fâché, surtout par... à cause du système informatique là, archaïque qu'on a, qui ne nous donnait pas toutes les informations, entre autres sur le manque d'employés par CHSLD. T'es obligé de faire des tableaux et tout ça. Pour ce qui est des directives, j'ai commencé à faire le tour puis de rencontrer les PDG. Ce que je me suis rendu compte, c'est quand on disait dans les directives, une personne infectée, là, vous l'envoyez chez eux. Bien, il y a des gens qui ont pris la décision de les garder pareil parce qu'ils se disaient, si je les envoie chez eux, il ne me reste plus personne pour nourrir mes patients. Donc, je comprends qu'ils n'ont pas suivi les directives, là, puis peut-être qu'ils avaient raison à ce moment-là. Puis c'est ça, c'est facile de dire, ah, il faut séparer les zones chaudes, les zones froides, il ne faut pas que ce soit les mêmes employés. Mais quand il nous manque d'employés puis qu'on a le choix de les faire aller dans les deux zones ou de ne pas avoir personne... Bien, je comprends qu'il y en a qui ont décidé de garder les personnes, même s'ils se promenaient d'une zone à l'autre.
Allez-vous faire une commission d'enquête ou un groupe d'experts techniques pour savoir ce qui s'est passé?
On est en train, effectivement, de regarder là, comment on fait ça. Moi, ce que je voudrais, c'est que ça se fasse, mais que ça se fasse rapidement. Moi, je suis un gars, effectivement, vous le disiez, pragmatique, d'action. Je veux surtout, là, bon, d'abord, on a nos 10 000 employés qu'on va ajouter, former. Bon, là, on pourrait se parler longtemps du projet de loi 61, puis de la rénovation des CHSLD, puis de la construction des nouveaux CHSLD qu'on va appeler Maison des aînés. Ça, là, il faut faire ça au plus sacrant.
Okay. Il y a beaucoup d'employés du réseau. Là. Vous avez utilisé un décret là, pour dire, vous, si vous allez aller travailler, les vacances peuvent être suspendues. Entre le discours que vous tenez et la réalité dans certains hôpitaux, là, il y a des infirmières puis du personnel qui ne sont pas certains d'avoir 2 semaines de vacances cet été, où ça gosse un peu, où là, ben là ça dépend, puis peut-être pas, peut-être un 4 jours-là. Avez-vous l'intention de lever ce décret-là? Allez-vous le maintenir? Qu'est-ce que vous dites aux infirmières, puis aux infirmiers, puis aux préposés qui sont fatigués puis qui ont besoin de vacances?
Bon. Je donne un exemple. Là. J'étais à Laval avec les gens des syndicats. La CSN et la FTQ ont accepté le tableau de vacances, là, 2 semaines pour tout le monde, d'ici fin septembre, je me souviens bien. La FIC, le syndicat de la FIC, eux veulent 3 semaines de vacances. On leur a offert 2 scénarios. Ou ils ont 2 semaines d'ici la fin septembre, ou on leur donne 3 semaines à tout le monde, mais d'ici le mois d'octobre. Ils ont refusé les 2 scénarios. Il ne faut pas oublier là, qu'on est en négociation de conventions collectives. Moi, je trouve ça, d'ailleurs, très dur, les publicités de la FIC, en fin de semaine, des enseignants de la FAE. Puis je distingue les syndicats des personnes. Parce que quand je me promène dans le réseau, là, que ce soit les infirmières, que ce soit les enseignants, je sens pas cette grogne que je vois dans les publicités.
OK. Parlons de l'éducation, justement. Oui. Là. Question bien simple. Là. Est-ce que les enfants, puis les ados, puis les jeunes adultes vont aller à l'école physique réelle en septembre? ou à date de ce que vous voyez, là, ça va être 50-50 ou...
Bon, évidemment, on attend la réponse officielle du docteur Arruda puis de la santé publique qui devrait venir dans les prochaines heures.
OK, mais okay? Mettons là.
Mais mettons là. Moi, mon souhait le plus grand, là, c'est que tout le monde retourne à l'école.
Et 100% physique.
100% physique. Pourquoi? Ben parce que je me souviens de mon adolescence, je me souviens de ma jeunesse. C'est important que les gens reprennent une vie, entre guillemets, un peu plus normale. Il y a des spécialistes un peu dans le monde qui disent, bon, là, 2 mètres, c'est peut-être un peu fort, là, 1 mètre. On sait que les jeunes sont beaucoup moins à risque de conséquences graves de la COVID. C'est
sûr. Je comprends qu'il faut attendre le docteur Arruda, là, mais...
Bien, on va attendre le docteur Arruda, mais...
Mais mettons que là, ça va être 1 mètre ouais, au lieu de 2, puis mettons écoutez, que les écoles vont
ouvrir. Moi, c'était peut-être une des décisions les plus déchirantes. Là. Quand j'ai ouvert les écoles primaires en région, il y avait du monde qui me disait de ne pas faire ça, parce que si jamais ça va mal virer, de mettre à risque nos enfants... Mais en même temps, c'est tellement important pour nos enfants. Je pense entre autres aux enfants qui ont des difficultés d'apprentissage, donc... Moi, là, je pousse pour que tout le monde retourne à l'école.
Des profs, des directions d'école me disent que votre ministre de l'Éducation a un peu cafouillé, que c'était pas un leadership super solide. Ça a commencé par des vacances. Des parents qui disaient au privé, eux autres, l'Ontario puis le privé au Québec étaient en ligne. Là. Et là, après ça, on rattrape puis il faut implanter. Trouvez-vous qu'il a été bien bon, votre ministre de l'Éducation?
Oui. Écoutez, encore là, on est en négociation de convention collective. Il faut toujours mettre ça dans le contexte. Deuxièmement...
C'est qui mène en éducation au Québec? Bon,
attendez une minute, là. L'autre affaire aussi, là, il faut en convenir, il y avait des profs qui avaient leurs enfants à la maison parce que les écoles étaient fermées. Donc, de demander à ces profs-là de faire du travail au téléphone avec leurs élèves alors qu'il fallait qu'ils s'occupent de leurs enfants...
Mais il y a plein de Québécois qui étaient à la maison puis qui faisaient du télétravail puis qui s'occupaient de leurs enfants aussi.
Puis il y en a qui n'étaient pas capables parce qu'il y avait des enfants trop jeunes puis ils ne pouvaient pas mettre toute l'énergie possible. Deuxièmement, là où, puis ce sont les syndicats qui ont dit que ça a fait déborder le vase, c'est qu'à un moment donné, on s'est demandé, est-ce que, parce que, vous savez, moi j'ai été 3 ans ministre de l'Éducation, là, puis les enfants qui ont des difficultés d'apprentissage, là, autisme, troubles d'attention, etc., de ne pas aller à l'école pendant 6 mois, là, c'est presque dramatique pour ces enfants-là. Donc, on a sorti l'idée à un moment donné de dire, on pourrait-tu avoir des camps pédagogiques l'été? Quand on est venu demander aux directions d'école puis aux enseignants de faire des camps pédagogiques pour le 20 % d'élèves qui ont des difficultés d'apprentissage, disons qu'ils sont choqués. Ils sont choqués, puis on lui a dit, ça va faire. Là. C'est là que ça a été dur. Est-ce que Jean-François n'aurait pas dû leur demander? Moi, je pense que Jean-François avait toutes les raisons du monde de leur demander, mais de toute évidence, là, on ne pourra pas le faire partout.
OK. Parlons de la loi 61. Votre ministre, M. Dubé, a avoué qu'il était allé fort sur le crayon en partant puis qu'il aurait pu nuancer une coupe d'affaires. Le résultat, c'est que les 3 partis d'opposition, évidemment, ne soutiennent pas le projet. C'est donc reporté. Il y avait des inquiétudes, M. Legault, quand même là-dessus. Là. C'est-à-dire que de voir que... Puis, tu sais, en même temps, je voyais le rapport de la vérificatrice générale qui me donnait des exemples au ministère des Transports. Mauvaise évaluation des coûts, que c'était compliqué. Êtes-vous allé un peu cow-boy là-dessus en disant, je comprends l'intérêt de vouloir construire, redémarrer l'économie, mais sans trop de garde-fous pour les magouilleux qui sont toujours prêts à saisir l'opportunité?
D'abord, là, c'est un projet de loi, même s'il n'y avait pas eu la pandémie, qu'on aurait amené à un moment donné. Est-ce que ça aurait été ce printemps ou cet automne? Mais ce que je peux vous dire, depuis 1 an et demi qu'on est au pouvoir, là, il y a 3 ministères là, qui ragent avec les infrastructures. François Bonnardel, ministre des Transports, vient me dire régulièrement, François, les routes, les projets de transport en commun, là, il se passera rien avant 4-5 ans. Il n'y aura pas une première pelletée de terre en 4-5 ans parce que les processus là, pour les expropriations, pour les évaluations environnementales, ça dure des années et on ne sera pas capable de construire ce qu'on veut construire. Daniel Mécan puis Marguerite Blais, même chose pour les hôpitaux puis les CHSLD ou les maisons des aînés. Puis Jean-François Roberge, même chose pour les écoles. Et moi, j'ai un mandat de 4 ans. Là, puis là, il venait me dire, là, M. Legault, là, dans le mandat, on ne pourra pas faire grand-chose là, à cause des... Bon, il y avait ça. C'est sûr, quand on touche aux évaluations environnementales, là, les groupes et les oppositions se sont braqués. C'est pour ça que nous, on était prêts à chercher des compromis. OK? Et puis oui, on aurait tissé large, parce que dans le fond, bon, est-ce qu'il aurait dû avoir un projet de loi pour le transport, un autre pour l'éducation, un autre pour la santé? Là, Christian Dubé a ramassé tout ça, ben, tout mis ça dans un projet de loi pour dire qu'il faut que ça aille plus vite.
Est-ce que la ligne bleue à Montréal est compromise, par exemple?
Écoutez, la ligne bleue à Montréal, s'il n'y a pas de projet de loi 61, là, on a au moins 3-4 ans avec les expropriations avant qu'il se passe quoi que ce soit.
Là, le temps file. Je veux vous parler, évidemment, de racisme. Il y a un point de presse cet après-midi avec le docteur Carman et d'autres là, de votre gouvernement. Il y a un rapport qui est sorti ce matin de l'Office de consultation publique qui dit qu'à Montréal, il y a un racisme systémique, de la discrimination. On a vu les pourcentages dans l'embauche chez les minorités ethniques. Vous, vous ne voulez pas utiliser le mot systémique. Vous dites qu'il y a du racisme, comme dans toute société, on n'est pas comme aux États-Unis. Qu'est-ce qui vous fait peur dans le mot systémique? Là, ça fait bien des organismes qui disent que c'est ça la réalité de Montréal, entre okay. autres.
Ben, il y a plusieurs gens qui ont plusieurs définitions. Moi, ce qui me fait peur dans le mot systémique, c'est qu'on compare notre situation avec les Américains, qu'on mette un peu au banc des accusés les Québécois. Moi, ce que je dis, il y a un consensus sur le fait que la majorité des Québécois sont pas racistes, mais qu'il y a des Québécois qui sont racistes, et c'est un problème qu'on peut plus tolérer. Donc, il faut prendre des mesures dans plusieurs secteurs, dans la fonction publique, chez les policiers, à 6-7 ministères, il faut poser des gestes. Donc, cet après-midi, j'annoncerai un groupe d'action. Moi, je veux passer à l'action. Là, je pense qu'il est temps qu'on arrête de jaser et puis qu'on fasse tout à notre possible pour qu'il n'y en ait plus de racisme.
Mais est-ce que vous croyez qu'il y a des gens qui n'ont pas accès à des postes de direction, même à l'embauche, parce qu'ils ne sont pas des Québécois de souche blanc? Est-ce que vous croyez qu'il y a des jeunes noirs qui se font arrêter parce qu'ils sont jeunes puis noirs au volant d'un véhicule? Pensez-vous que ça existe?
Bien, certain. Ça existe. Il y a des employeurs qui sont racistes. Il y a des policiers qui sont racistes. Mais encore une fois, c'est une minorité. Mais c'est une minorité qui est inacceptable dans notre société. Et puis, on a mené des combats, nous autres, au Québec, pour le droit des femmes, pour le droit des francophones, contre l'homophobie. Bien là, il est temps de mener ce combat-là contre le racisme.
M. Legault, merci d'être venu ce matin.
Merci beaucoup, M. Arcand. Bon été.
À vous aussi, François Legault, le premier ministre du Québec. 7h46.